Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, pour ce numéro de fin d'hiver de votre magazine Loire Mag, le podcast, nous ferons écho à la campagne d'affichage, la troisième, qui va mettre à l'honneur des agents du département engagés dans les métiers de l'aide sociale auprès des Ligériens. Cette campagne nous sera présentée par Georges Ziegler, président du conseil départemental de la Loire. Et puis vous entendrez successivement Nadjat Zerouk, assistante familiale qui est avec sa famille, et depuis 2016, famille d'accueil pour des enfants en difficulté dans leur propre famille. Et puis ce sera le témoignage de Céline Bouchot, travailleur sociale à l'enfance, qui utilise l'ouverture culturelle pour instaurer d'autres relations entre les enfants et les jeunes, et leurs éducateurs notamment. Et nous terminerons avec Virginie Perrault, écrivain numérique social, qui apporte une aide essentielle aux personnes loin du numérique, pourtant désormais omniprésent dans toutes nos démarches administratives.
Loire Mag, le dossier.
Mieux connaître et comprendre le travail des agents du département, c'est aussi mieux savoir faire appel à eux. C'est l'un des objectifs de la troisième campagne d'affichage que vous allez découvrir dès cette semaine dans les différentes communes de la Loire, avec un focus cette année sur les métiers liés à l'aide sociale tout particulièrement. Présentation de cette campagne par Georges Ziegler, président du département de la Loire.
C'est une campagne qui est plutôt tournée vers des gens qui ont des métiers vraiment d'aide aux personnes. On aura une infirmière péricultrice, la PMI, les jeunes enfants. On aura une éducatrice polyvalente qui s'occupe des familles qui ont des difficultés pour les aider à mieux gérer leur quotidien. On aura un assistant familial qui lui accueille avec sa femme, du côté de Saint-Jean-Chevalet, eh bien des enfants qui ont besoin de trouver un cadre familial. Un écrivain numérique aussi, parce que l'écrivain numérique, eh bien c'est celui qui fait le lien entre les technologies du numérique, justement, et puis une population qui est un peu en dehors de ce savoir. Et aujourd'hui, on sait très bien que le numérique, eh bien, il est entré dans nos vies, et si on ne possède pas des rudiments, c'est très très difficile. Alors c'est aussi l'occasion de remercier tous ces agents du département, les 3000 qui œuvrent dans 150 métiers, et qui sont au service de la population depuis, avant la naissance, jusqu'à l'extrême fin de vie. Ce qu'il faut, c'est que chacun, au moment où il a une difficulté au cours de son existence, eh bien, il puisse se dire « je ne suis pas seul ». Il y a le département qui est à côté, il y a le département qui est là pour me tendre la main, pour m'aider, et pour m'aider à raccrocher, si vous voulez, un avenir. Un avenir, parce que je le vois, moi, avec les gens qui sont au RSA, eh bien, ce qu'il faut, c'est les amener le plus possible à recoller au train de l'emploi, parce que ça leur permet, en sortant d'un dispositif qui, certes, est contraignant, hein, mais qui permet aussi, en retrouvant un emploi, eh bien, de se reconstruire un futur. Alors c'est pour ça qu'au niveau du département, on a une gestion très saine qui permettra effectivement à la fois de répondre aux attentes du présent, mais aussi de préparer les exigences de l'avenir.
Vous avez évoqué par exemple le travail de l'écrivain numérique. À quoi est-ce que vous pensez, parlant d'avenir ?
Alors pour l'avenir, eh bien, effectivement, c'est le phénomène de l'acculturation des générations montantes, des générations existantes aussi, c'est de se dire qu'il faut qu'on prépare le citoyen de la Loire aux réalités du XXIe siècle. On a déjà presque passé un quart du siècle et il faut qu'on passe, à mon avis, à la vitesse supérieure pour permettre à chacun de profiter des avantages énormes de ces technologies, tout en les prévenant des dangers éventuels.
Alors, ces agents, 3000 personnes dans des métiers très différents, nombreux, la formation fait partie aussi des soucis qui sont les vôtres pour que ces personnels soient en capacité de faire face à l'avenir eux aussi.
Bien sûr, la formation et puis le bien-être au travail aussi. Et on travaille avec le directeur général, avec l'ensemble de l'encadrement du département à améliorer les choses. Je crois que travailler au département, travailler au profit d'une population, eh bien, c'est quelque chose qui peut donner un sens à une vie. Parce que je rencontre parfois des gens, des jeunes, qui ont des métiers tout à fait extraordinaires, où ils sont payés très très bien, mais ils ne sont pas forcément très heureux. Et ils ont besoin, pour se réaliser, eh bien, de donner un sens à leur vie, et donner un sens à sa vie, c'est bien sûr s'accomplir dans son travail et puis se dire que ça a une utilité. Les gens qui travaillent au département, ils savent qu'ils travaillent pour la collectivité.
Alors le département de la Loire est aussi un département de montagne, même moyenne, et donc il y a des endroits où il est plus difficile d'accéder, il y a des endroits où aussi il y a moins de population. Comment se répartissent les agents du département pour être au service véritablement de tous les Ligériens ?
Alors on essaye d'être présent partout, c'est vrai que du fait du positionnement géographique, on peut avoir certaines contraintes. Il ne faut pas le nier, il faut le savoir, il faut accepter ça. Mais je crois qu'effectivement, nous, en termes de route, en termes de collège, on s'est lancé dans la résorption des déserts médicaux. Eh bien, on essaye de faire des choses pour que chacun puisse continuer de vivre là où il a envie de vivre.
Vous m'avez parlé en amont de cette interview d'un certain nombre d'agents que vous aviez rencontrés. C'est quelque chose que vous faites, que vous aimez faire, que vous avez à cœur de faire?
Bien sûr. Chaque fois que je visite un canton dans la Loire, je vais systématiquement rencontrer les pôles d'activité où nous sommes, c'est-à-dire le centre technique, les routes. Je vais rencontrer l'équipe sociale, les assistantes qui sont là. Et parfois, il y a des moments extraordinaires. Je me souviens, justement, c'est du côté de Saint-Juan-Chevalet, j'ai eu une discussion avec une assistante sociale qui me racontait qu'elle était allée voir une vieille dame, plus de 80 ans, qui habitait dans une espèce de hameau un peu reculé. Et quand elle est rentrée chez cette dame, la personne s'est mise à pleurer. Alors l'assistante sociale lui a demandé pourquoi elle pleurait. Elle lui a dit « parce que je suis contente ». Elle lui a dit « oui, pourquoi ?» Eh bien, ça fait 10 ans que personne n'était venu me voir chez moi. Quand on voit la détresse, quand on voit l'isolement, quand on voit tout ce qu'on peut apporter par une simple visite, eh bien, c'est fantastique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait appel à nos agents, toutes catégories confondues, dans l'opération « Aidons nos aînés » qui a été un vrai succès. On a été rejoints par des pompiers et par des gendarmes et il y a plus de 100 personnes qui tous les jours, ou plusieurs fois dans la semaine au moins, ont appelé des personnes qui étaient isolées. Et on leur disait, ben voilà, vous avez quelqu'un, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous n'êtes pas seul. Et je pense que si vous voulez le bonheur, c'est parfois simple comme un coup de fil.
Loire Mag, visage de la Loire.
Parmi les métiers du social présents dans le département, il y a celui d'assistante familiale. C'est la profession de Najat Zerouk qu'a rencontré Clément Bonsignor. Elle nous explique d'abord en quoi consiste ce métier d'assistante familiale, bien loin d'un travail ordinaire.
Assistante familiale, c'est connu sous le nom de famille d'accueil en fait. C'est un métier qui permet d'accueillir des enfants à domicile. On s'occupe des enfants pour différentes raisons en fonction de leur placement. C'est souvent des placements au long cours. Alors on va aider l'enfant à trouver une sécurité, l'aider à grandir, à trouver une stabilité pour pouvoir après prendre son autonomie, son envol.
Comment on en vient à vouloir faire famille d'accueil? Parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Là, on accueille quelqu'un chez soi, dans son environnement personnel. Il faut lui ouvrir sa vie privée. Ça demande de l'engagement?
Oui, tout à fait. C'est très particulier, parce que c'est un travail à domicile, en fait. C'est un travail même familial, puisque toute la famille est impactée. Le conjoint, les enfants, puisqu'on accueille l'enfant à domicile. On ne fait pas ses 8 heures de travail à l'extérieur et on rentre, c'est terminé. Là, non, c'est H24, jours fériés, les week-ends, voilà. Donc oui, c'est un travail très particulier, puisque ça demande un engagement très important. C'est en même temps, c'est un métier... moi, des fois, j'arrive à dire que c'est un métier impossible. Parce que c'est peut être parfois très coûteux psychiquement. Et en même temps, il y a des liens, un attachement qui se crée, forcément, de la part de l'enfant et de la famille d'accueil aussi. Donc oui, c'est un engagement qui engage toute la famille, en fait. C'est un métier très particulier. C'est savoir accueillir, c'est aimer, pouvoir aider, entre guillemets. C'est aider les enfants, en fait, à grandir, à sortir de leurs difficultés, essayer de les faire avancer au mieux pour qu'ils puissent eux-mêmes, après, être autonomes dans la vie, pour leur vie, après, plus tard.
Oui, c'est un véritable rôle d'aidant, de guide peut-être pas, mais de modèle aussi, justement. Où vous vous placez là-dedans?
Alors, on est déjà, c'est une structure familiale. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas connu le modèle famille. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une famille, vivre dans une famille, entre guillemets, normale. Donc, déjà, ils ont un exemple quand ils arrivent ici. Ils connaissent le fonctionnement familial. Ils ont une sécurité qu'ils n'ont pas eue forcément non plus. Voilà, ils ont une place d'enfant qui est leur place, parce que parfois dans leur famille, ils ont pu jouer d'autres rôles, entre guillemets, c'est-à-dire prendre la place d'un adulte alors que ce sont des enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de... Ça peut être énormément de choses hein, par rapport à ces enfants. Donc oui, c'est plutôt les remettre à leur place d'enfant, les aider à grandir, leur apprendre, les faire évoluer, leur donner une sécurité, avoir un modèle. C'est tout ça, en fait, c'est être... Parents sans être parents, en fait, c'est ça. On est des parents, on laisse en l'être, mais voilà, c'est en tout cas le modèle. Et on leur apporte l'affection, l'amour et vice-versa.
Là, vous êtes, vous, famille d'accueil depuis 2016 et venez de dire au revoir à un jeune que vous avez recueilli depuis ses 12 ans. Il en a 18, il est parti en janvier. Ça, c'est forcément de l'attachement quand on se dit au revoir.
Oui, oui. L'attachement pour lui, pour nous, moi en tant que centre familial, la famille aussi, mes enfants, parce que 6 ans, c'est pas rien. Il y a eu beaucoup d'événements en 6 ans, beaucoup de choses. Donc, il y a un attachement qui se crée. Donc, la séparation peut être difficile. Alors, on l'a travaillé quand même, cette séparation. On l'a prévu bien avant ses 18 ans. Pour le retour, parce qu'il est retourné chez sa maman, ce jeune homme. Donc, du coup, on lâche tout doucement, c'est-à-dire qu'il est parti en même temps, il nous contacte, en même temps, il revient tous les 15 jours pour le moment, prendre le goûter avec nous. C'est-à-dire, on le lâche tout doucement, jusqu'à ce que lui estime que c'est bon pour lui et qu'il n'ait plus besoin de revenir. Mais il y a encore quand même ce petit lien qui reste pour lui permettre de partir tranquillement, en fait. Donc j'ai le petit là qui a 6 ans et donc j'ai une place pour un deuxième accueil, oui. Donc j'avais demandé un petit délai de 2 mois pour souffler un petit peu et puis recommencer un autre accueil.
Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous pour nous avoir fait découvrir ce métier d'assistante familiale. Merci beaucoup Nadja Dzerou.
Merci.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Comment apporter la culture aux enfants placés dans des familles? Cette question, l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire se l'est posée. Une réflexion qui a abouti sur le projet transversal culture. Pour nous en parler, Céline Boucher, travailleur social à l'enfance, est au micro de Lucas Laubert.
Bonjour Céline Bouchot. Concrètement, en quelques mots, c'est quoi ce projet-là de culture pour amener la culture à l'enfance?
Je travaille au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et j'accompagne des enfants qui sont placés, qui n'ont pas forcément un accès à la culture, qui ne sont pas familiers de ces choses-là. Et l'idée, c'est de pouvoir amener tous ces publics qui peuvent être parfois très éloignés des choses culturelles à la culture, vers la culture, les intéresser et qu'ils puissent ensuite s'en resservir plus tard dans leur vie.
Votre travail, à la base, il n'est pas lié à la culture, vous, personnellement?
Non, pas du tout. Moi, j'interviens dans le cadre des missions de protection de l'enfance, donc dans un service de l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est une politique qui vient donc de l'État et qui demande à chaque département d'organiser lui-même les missions de protection de l'enfance. Donc, dans ce cadre-là, on travaille et on accompagne les enfants qui sont placés dans un cadre judiciaire ou administratif.
Alors comment concrètement vous apportez la culture à l'enfance ?
On peut l'apporter de différentes manières, très concrètement à travers la mise en place d'ateliers, puisque dans le cadre du département, nous avons de nombreux services culturels, de nombreux partenaires aussi avec tous les sites culturels de la Loire. On peut proposer des ateliers aussi bien sur le théâtre, sur la musique, sur le chant, sur la danse. Donc c'est des ateliers auxquels les enfants participent directement, concrètement, et ils peuvent aussi également assister à des spectacles. Nous avons d'autres partenariats avec l'Opéra de Saint-Étienne, avec la Comédie de Saint-Étienne, avec le théâtre d'Andrézieux, le théâtre de Roanne aussi. Donc tous ces sites-là nous proposent des places de spectacle auxquelles les enfants peuvent assister.
Et les retours que vous avez des enfants, ils sont friands maintenant de découvrir de nouvelles choses ?
Oui. Généralement, ils sont très partie prenante de ce genre de projet. En tout cas, moi, en tant que professionnelle au niveau des enfants que j'ai pu amener à participer dans ces ateliers, ce que j'observe, c'est qu'ils prennent déjà énormément de plaisir, que si parfois, au départ, ils peuvent avoir des a priori, être un peu frileux, quand on propose du chant lyrique, de l'opéra, des enfants qui ne connaissent pas du tout ça, ils peuvent au départ nous regarder avec des grands yeux en se disant « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis au final, c'est une expérience qu'ils prennent plaisir à réaliser et ils sont très demandeurs après. Moi, j'ai souvent des enfants qui ont participé qui me disent « Quand est-ce que tu me ramènes voir une pièce de théâtre ?» Ils sont vraiment demandeurs de ces choses-là ensuite.
Et en même temps, vous voulez ratisser large en proposant aussi bien du chant lyrique que du hip-hop, par exemple.
Exactement, voilà. On a un partenariat avec le Fil de Saint-Étienne, par exemple, donc qui vient plutôt sur les musiques actuelles, les musiques électroniques, qui peut proposer des choses autour du slam, autour du hip-hop. Alors là, forcément, on a énormément de demandes de la part des enfants, donc il faut faire des choix, mais voilà, il y a aussi d'autres choses, beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, hip-hop, classique aussi, hein, dans la danse, on varie les choses, et le chant lyrique.
Et au niveau de l'âge des enfants qui sont accompagnés, c'est très large, ça va de la naissance, de la très petite enfance, jusqu'à presque l'âge adulte.
Oui, en fonction des projets qui nous sont proposés, on peut être amené à avoir donc toutes les catégories d'âge, puisque dans le cadre de mes missions de travailleur social enfance, j'accompagne des enfants de la naissance, mais aussi jusqu'à 21 ans. Voilà, le placement s'arrête à 18 ans, mais les jeunes à 18 ans n'ont parfois pas de solution ensuite, et ils peuvent, lorsqu'ils le souhaitent, demander à continuer à être accompagnés à travers un contrat jeune majeur. Donc ils sont également concernés parfois par les projets qu'on peut proposer. Et puis, il y a aussi les mineurs isolés étrangers qui sont parfois aussi majeurs et qui viennent parfois participer à ces projets-là.
Et ces projets-là, ils permettent aussi de créer des moments d'échange, de travailler ensemble. C'est aussi ça, la culture, c'est d'échanger.
C'est ça. On intervient dans un mandat très souvent judiciaire dans le cadre de nos missions. Donc, c'est-à-dire que les gens, les enfants, les parents avec lesquels on travaille ne choisissent pas. Ils subissent notre intervention puisque c'est un juge des enfants qui la décide. Donc, c'est pour nous aussi une autre manière de créer du lien, d'entrer en relation, d'accompagner ces enfants. Ils ont parfois un regard sur nous qui, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu constater, dans ces instants-là, change parce qu'ils nous voient autrement que leur éducateur, leur éducatrice. C'est un partage, c'est une découverte, c'est des moments de rigolade parfois. Donc voilà, ça permet de travailler autrement et pour eux, de découvrir la culture, mais aussi de découvrir finalement leurs éduques.
Ce sont des moments un petit peu magiques où chacun se redécouvre.
Oui, il faut le vivre pour pouvoir vraiment le comprendre, mais voilà, la culture, c'est un outil, c'est une richesse, ce sont des leviers qui sont vraiment essentiels dans notre pratique et pour ces publics.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Parmi les métiers à l'honneur durant la campagne d'affichage du département, il y a l'écrivain numérique social. Le président Ziegler en parlait il y a quelques instants. Nous avons reçu dans nos studios Virginie Perrault, qui est l'une des agents du département avec cette mission d'écrivain numérique social, un métier qui a pris plus d'importance, notamment avec le tout premier confinement. Mais cette aide dans l'utilisation des technologies numériques ne se dément pas. Virginie Perrault répond à mes questions et à celles de Clément Bonsignor.
Ça, c'est des nouveaux métiers qui ont été mis en place un petit peu en accélération suite un peu au confinement de l'époque. Et en fait, ce sont des métiers spécialisés dans tout ce qui est les démarches numériques en ligne, avec la dématérialisation qui est en cours de toutes les démarches administratives. Donc le département, effectivement, a ouvert ces postes-là afin d'être en complémentarité avec les travailleurs sociaux du département, du service social départemental, et pour pouvoir apporter aussi une approche un peu plus spécifique et personnalisée pour les Ligériens qui sont un peu perdus avec tout ce qui est l'utilisation des outils informatiques, et notamment d'Internet, et notamment dans leur démarche numérique.
C'est vous qui les recevez ?
Tout à fait, c'est-à-dire que les personnes n'ayant pas soit de connexion Internet pour certains, ou d'outils informatiques, puisque ça représente aussi un coût budgétaire assez important pour certains, effectivement, ils peuvent prendre contact avec nous, avec le service social départemental, et on les aide, on les guide à faire leur démarche administrative. On est là pour les aider, oui.
À travers tout le département ?
On est sur tout le département.
Vous êtes nombreux ?
On est 6 sur le département.
Ça a deux facteurs, en fait, ce métier, vous nous expliquez hors antenne, c'est-à-dire que ça soulage le métier des travailleurs sociaux et en même temps, ça permet également de faire des démarches pour des personnes qui n'auraient pas accès à un ordinateur ou qui ont un peu, pas la phobie, mais des personnes qui sont moins à l'aise, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, ça peut soulager effectivement sur des tâches un peu chronophages qui étaient existantes un petit peu jusqu'à présent pour des dossiers, par exemple, qu'il fallait faire effectivement sous forme papier qui prenait beaucoup de temps. Donc, on vient vraiment en complémentarité du travail avec l'assistante sociale qui peut se concentrer vraiment sur un accompagnement social plus spécifique.
Vous êtes écrivain numérique depuis quelques années déjà, mais vous aviez une formation spécifique. Le numérique, pour vous, n'a pas de secret ?
On ne va pas dire que le numérique n'a pas de secret, puisque le numérique évolue très, très, très vite. Donc, il faut toujours être un petit peu à la page, toujours avoir aussi une appétence pour pouvoir voir ce qui s'y passe. C'est intéressant, c'est très enrichissant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment un accès au droit qui se met en place, effectivement, qui change, en fait, qui bouge tous les jours.
Vous y êtes venue comment, finalement, à ce métier ?
J'y suis venue, à la base, bénévolement. Tout simplement au sein de ma commune d'habitation où effectivement j'avais une association au niveau des parents, au niveau de l'école, où on a créé effectivement un site internet, tout simplement un truc très bête, c'était effectivement pour que les parents puissent réserver des repas de cantine sur internet. C'est parti de là, de transformer effectivement tout ce qui était papier en numérique, où on s'est rendu compte qu'effectivement c'était quand même quelque chose de beaucoup plus abordable pour les parents, puis on a continué comme ça.
Et puis c'est vrai que maintenant vous faites beaucoup de demandes, pas forcément la cantine, des demandes à la sécurité sociale, des demandes de prestations à la CAF,
tout à fait.
De la carte d'identité, en fait finalement tout ce qui est faisable par internet, et aujourd'hui ça concerne quoi, 90% des demandes peut-être internet ?
Voilà, c'est une très très forte demande, on se rend compte effectivement que les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées. Les permanences effectivement qui existaient au niveau des services publics se sont un petit peu amoindries, on va dire ça comme ça, puisqu'elles ont été aussi un peu remplacées par des services en ligne directement. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour pouvoir guider les gens dans ces démarches-là.
Ça veut dire que vous les revoyez les gens forcément ?
Tout à fait, notamment pour par exemple leur demande de retraite, par exemple. Là c'est vraiment un gros travail où effectivement les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce qui va leur arriver. C'est une grosse étape dans leur vie. L'outil informatique, en fait, il est très, très simple. Il a simplement besoin d'être expliqué. Et les suivis des dossiers, effectivement, peuvent prendre un petit peu de temps en fonction de la situation de chacun.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a un rôle un peu de pédagogie avec les personnes que vous rencontrez. Vous m'expliquez quelquefois que vous leur laissez la souris, finalement, pour essayer de démystifier un peu cette machine qu'est l'ordinateur.
Oui, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que quand on leur propose, ils sont très surpris. On a simplement à leur dire, mais vous en êtes capable de le faire si nous, on y arrive, vous aussi. Et effectivement, ils sont assez preneurs de ce genre d'initiative. On n'hésite pas, effectivement, à faire de la médiation numérique à ce niveau-là, à leur apprendre à naviguer sur Internet, à leur apprendre également la sécurité d'Internet. Mais on se rend compte qu'ils sont assez preneurs dans cette démarche-là.
Est-ce que par conséquent, il y en a certains qui arrivent après à s'affranchir un petit peu des écrivains numériques pour certaines démarches au moins ?
Tout à fait. Tout à fait. Je prends un exemple sur les prestations CAF, par exemple. On peut faire une déclaration de ressources. On leur montre la première fois. La deuxième fois, on leur demande avec leur téléphone de télécharger l'application de la CAF. On leur montre au deuxième rendez-vous de faire leur déclaration de ressources. Et le troisième, ils n'ont plus besoin de nous. Ils arrivent à le faire et ils se rendent compte que c'est finalement très simple.
Est-ce qu'il y a une rencontre dans ce domaine-là qui vous a le plus particulièrement frappé, Virginie Perrault ?
J'oserais dire, par exemple, des personnes que je suis dans le cadre de leur retraite et qui, à la fin, arrivées au terme du suivi au bout de quelques mois, vous regardent et vous disent « Ah, ça veut dire qu'on ne va plus se voir ». Et non, effectivement. Donc c'est toujours, on s'attache aussi, on a un lien quand même qui est différent. Les gens s'attachent un petit peu aussi à nous. Ils sont effectivement rassurés, ça leur fait plaisir de venir pour être rassurés. Et quelque part, effectivement, quand la fin du suivi arrive, on est aussi là pour les rassurer en lui disant bah, « Vous voyez, vous y êtes arrivé très très bien tout seul. » Et là, du coup, vous pouvez continuer votre petite vie sans problème.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.